Bonjour, vous êtes sur RZL 103.5 avec Manon, Jeanne, Elia et je suis Lise. Et nous allons vous présenter les couleurs.
Nous voyons tous les couleurs depuis toujours, mais est-ce que ce sont les mêmes pour tous ?
À partir de quel moment savons-nous que nous sommes daltoniens ?
Et quelle est leur signification ?
Après recherche, nous avons pu constater que nous les interprétons de la même manière. Mais comment peut-on être sûr de voir la même couleur qu'à carton bleu ? Et peut-être mon rouge ?
En fait, ce n'est pas une question de « est-ce que ton bleu est mon rouge ?» mais plutôt que nos couleurs sont complètement différentes en fonction des personnes, car au final, notre cerveau réagit pareil pour chaque teinte.
Moi, je pense que nous voyons tous la même chose, mais que c'est effectivement le cerveau qui le perçoit différemment. Donc, ce n'est pas une question de vision, mais une question cérébrale. Mais avec quoi interceptons-nous les couleurs et comment ?
Les cônes se situent au centre de la rétine et ce sont des millions de photorécepteurs qui reçoivent la couleur. Ils transforment le signal de la lumière en signal nerveux vers le cerveau. Chaque couleur a une longueur d'onde définie en nanomètres qui va du violet au rouge. Du coup, comment détectons-nous le daltonisme ?
Le daltonisme chez l'enfant est dépisté grâce au test d'Ishihara. C'est le plus simple et le plus utilisé. C'est un examen chromatique qui permet d'évaluer la perception des couleurs. Il a été imaginé en 1917 par le professeur japonais Shinobu Ishihara. Il consiste à présenter 38 planches, les unes après les autres, à l'enfant qui va devoir indiquer la forme ou le chiffre qu'il distingue. Le daltonisme n'est pas un handicap ni une maladie. Il n'engendre aucun problème spécifique. Mais pourquoi surtout les daltoniens ? Que 1% sont des filles.
Le daltonisme se trouve sur le chromosome X. Les femmes ont deux chromosomes X et pour être daltonien, il faut qu'elles portent le gène défectueux sur les deux X en même temps. Alors que les hommes n'ont qu'un seul chromosome X, donc ils n'ont pas de roue de secours. C'est pour ça que les hommes sont plus souvent daltoniens. On parle de daltonisme, mais au final, c'est quoi ?
Être daltonien, c'est confondre les paires de couleurs. Souvent, ils ne perçoivent pas la couleur rouge et la confondent avec le vert. Mais il y a plusieurs types. C'est lié à un mauvais fonctionnement d'un des cônes photorécepteurs.
Manon, Jeanne, pouvez-vous nous expliquer quelle est la signification des couleurs ?
Dans tous les pays, les couleurs ont une signification, mais elles ne sont jamais vraiment associées au même terme.
Par exemple, au Japon, la couleur jaune symbolise force et courage. En Inde, elle est associée à la négociation et au commerce. En revanche, en Allemagne, le jaune est perçu comme la couleur de la jalousie et du deuil en Égypte.
Voici la signification des couleurs en France.
La couleur rouge, c'est une couleur forte, synonyme de puissance, de force, d'énergie, de passion et évidemment d'amour. Attention, le rouge représente aussi le sang, le danger et la révolte.
La couleur jaune, synonyme d'optimisme, de joie de vivre, de chaleur et de lumière. La connotation négative de cette couleur peut être le mensonge et la tromperie, comme l'illustre l'expression « rire jaune ».
La couleur verte, synonyme de nature, d'optimisme, d'espérance et de croissance. Dans un contexte négatif, la couleur verte peut représenter l'infortune.
La couleur violette, synonyme de mystère, de spiritualité, de magie et d'élégance. Le violet est une couleur qui, selon sa tonalité, appartient à la famille des couleurs froides ou chaudes. Ces aspects plus négatifs seraient la tristesse, la mélancolie et la solitude.
La couleur orange, synonyme d'ambition, d'enthousiasme, d'énergie et d'action. On lui connaît peu de connotations négatives, si ce n'est qu'on la rattache souvent à représenter des attitudes excessives.
La couleur rose, synonyme de féminité, de romance, de douceur et d'innocence. Utilisée en grande quantité, la couleur rose est systématiquement rattachée à son côté girly, qui peut être interprété comme mièvre, enfantin ou même ringard.
La couleur bleue, synonyme de fiabilité, de vérité et de tranquillité, ça n'est pas pour rien que cette couleur est la plus couramment utilisée pour les créations de logos. Mais elle n'est pas associée qu'aux garçons, comme la couleur rose qui n'est pas associée qu'aux filles.
La couleur marron, synonyme d'authenticité et de naturel. Le marron rappelle la couleur de la terre, du bois, mais aussi du chocolat. C'est une teinte considérée comme neutre au point de paraître fade lorsqu'elle prédomine.
La couleur noire, synonyme de rigueur, de sophistication, d'élégance mais aussi d'intemporalité. Selon le contexte, le noir symbolise aussi la mort, le deuil et la tristesse.
La couleur blanche, synonyme de pureté, de perfection, de propreté mais aussi d'innocence et de virginité. Elle peut aussi représenter le vide ou le manque de contenu, comme l'illustre la page blanche.
On retrouve aussi les couleurs dans plusieurs domaines, comme
l'art avec les pigments de couleurs et les peintures,
la psychologie avec les couleurs associées à nos émotions et nos humeurs,
la mode avec les tendances de chaque saison,
la nature avec le changement de couleur des feuilles et le pelage des animaux,
le marketing avec les logos des marques et les visuels de produits,
la science avec le daltonisme et la formation d'un arc-en-ciel,
la musique avec le cinéma, avec la chanson, la musique et le cinéma avec la chanson La vie en rose d'Edith Piaf.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Et le film Vice Versa.
Les traditions et les événements importants de notre vie, avec Noël, les mariages, les enterrements et les naissances. Et voilà, c'est tout pour notre émission sur les couleurs. Nous espérons que ça vous a plu, et en attendant le prochain groupe qui vous parlera des jeux vidéo, nous vous laisserons avec la musique Miss You de Oliver Sree et Robin Schulz.
RTL que vous écoutez, merci d'être avec nous. Je m'appelle Nino et je suis avec Alban. Salut Alban.
Salut.
Avec Mathias derrière les commandes.
Salut Nino.
Salut. Et bonjour Tim aussi.
Salut.
Aujourd'hui, c'est la journée nationale des jeux vidéo, la Game Day, je crois en anglais, National Game Day. Enfin bref, mon anglais n'est vraiment pas bon, donc on va rester en français sur RTL, c'est mieux. Mais on va vous parler de jeux vidéo à cette occasion et on va jouer avec vous. Vous pouvez aussi jouer avec nous derrière votre voiture, derrière votre poste, dans votre canapé, je sais pas où vous êtes, mais en tout cas vous pouvez jouer avec nous. Et on va vous poser du coup des questions, on va jouer dans l'équipe. Et pour commencer, c'est Tim qui va essayer de nous faire deviner des jeux vidéo.
Ouais, alors, ça sera des devinettes sur... Les jeux vidéo, à chaque fois, en fait, le jeu vidéo, c'est un personnage. Alors, première question. Je suis un plombier créé par Shigeru Miyamoto en 1983. J'ai un frère qui s'appelle Luigi. Nous avons tous les deux une moustache. Notre but est de combattre les créatures qui apparaissent dans les égouts de New York. Qui suis-je ?
Alban.
Super Mario Bros.
Oui, c'est ça, Alban. Bien joué.
Merci.
Et la deuxième question. Je suis un jeu vidéo créé par Toru Iwatani pour l'entreprise japonaise Namco, sorti au Japon le 22 mai 1980. Mon jeu consiste à déplacer le personnage qui, vu de profil, ressemble à un diagramme circulaire à l'intérieur d'un labyrinthe afin de faire manger toutes les gommes qui s'y trouvent en évitant d'être touché par des fantômes. Qui suis-je ?
Moi, je pense que c'est Pac-Man.
Oui, c'est ça, Mathias.
Bravo. Bravo. Et pour un applaudissement. Merci Tim, et maintenant on va essayer de deviner d'autres jeux avec toi Alban. On fait un qui suis-je, c'est ça?
Idéalement oui.
Tu peux commencer avec ta première devinette.
Sorti en 1985, le but du jeu est de réaliser des lignes complètes en déplaçant des pièces de formes différentes qui défilent depuis le haut jusqu'au bas de l'écran. Qui suis-je?
Moi je pense que c'était Tetris, c'est ça?
Oui.
Bravo, bravo, Alban!
C'est Tim. Hein.
Ah bah, bravo, Tim.
Allez, deuxième devinette.
Deuxième, un peu plus dur. On attend ce jeu depuis 13 années. Il se déroule à Los Santos, un jeu en monde ouvert dans lequel il est possible de se déplacer librement. Qui suis-je?
Je sais pas.
GTA 6.
Oui, ah c'est bah ça. Oui, c'est vrai.
Bravo. Bravo. On continue maintenant avec toi, Mathias. Tu vas nous parler d'un autre jeu.
Je vais vous parler de Tomb Raider, qui est un jeu vidéo d'action-aventure sorti en 1996, développé par Core Designnet, édité par Eidos Interactive, Future Square Enix en Europe. Il est le premier de la franchise médiatique Tomb Raider. Le jeu est d'abord publié sur une Sega Saturn et plus rapidement sur PlayStation. Et maintenant, j'ai deux questions pour vous. Qui est le personnage principal de Tomb Raider?
Lara Croft.
Bonne question.
Moi, je sais pas.
Et bah, c'est une bonne réponse pour Alban.
Bravo, Alban.
Bravo, Alban, pour l'instant, c'est quasiment un sans faute.
Et
hein.
quelle est l'histoire principale de Tomb Raider?
On part en fou rire dans le studio. Un peu de concentration. Je sais pas.
Qui
Alban?
Alban?
Je ne sais pas.
Tim?
Tim?
Moi non plus.
Mauvaise
vous
réponse.
Donnez votre langue au chat?
Ouais, on donne notre langue au chat.
Ouais.
Bah, l'histoire principale, c'est l'aventurière britannique Lara Croft, une aventurière qui cherche la vérité sur le monde qui l'entoure.
Ah bah, fallait connaître.
Eh ouais. Une petite musique d'aventure.
Ouais. Ouais, c'était l'émission d'hier sur Fort Boyard. D'ailleurs, si vous voulez la réécouter, n'hésitez pas en podcast sur le site rdlcolmar.fr. Et puis tous les podcasts également des autres émissions, et puis de toutes les émissions, pas toutes les émissions, mais une bonne partie des émissions à retrouver sur le site internet.
On continue avec toi, Nino.
Oui, on continue maintenant. Alors, je vais vous faire un jeu. Je vais vous donner trois titres de jeux vidéo. Et Alban va ne pas tricher aussi. Et donc, du coup, je vais vous faire deviner les dates. Je vais vous proposer trois dates. Il va falloir deviner la date de sortie de la première version. Est-ce que vous connaissez Euro Truck Simulator?
Oui.
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 Un jeu de camion. Est-ce que c'est sorti en 2008, en 2005 ou en 2011?
2008.
Moi, je pense que c'est 2008.
Moi aussi, je suis d'accord.
Ben, on est sur la même longueur d'onde, on dirait.
Oui, on est sur RDR 3.5. Et oui, vous êtes... voilà, c'était la petite vanne. Et c'était une bonne réponse en même temps. Et Peggy qui réfléchit, qui a compris la blague. Pas compris. prochain jeu. On continue avec City Skyline. Vous connaissez?
Un peu, vaguement.
Oui.
Non.
Alors, est-ce que c'est sorti en 2019, en 2009 ou en 2015?
C'est sorti pour moi en 2015.
Alban, 2015 également.
Tim?
Oui, 2015.
C'est une bonne réponse aussi. Bravo.
On peut s'applaudir.
Et dernier jeu, je vous demande même pas si vous connaissez, parce que c'est un peu normal, sinon c'est un manque de culture à votre âge, Brawl Star, vous connaissez?
Oui, bien sûr.
Oui, je connais.
Moi, je connais pas.
Et moi, je...
Et alors la date, 2010. Cette fois-ci, je veux faire un perfect, pas de proposition.
2017.
Bonne réponse, bravo. Et on reçoit une invitée maintenant dans le studio, Peggy.
Un peu de musique pour Peggy.
Ouais, applaudissements pour Peggy.
Merci, merci. Donc dis-nous moi, tout. Quand vous avez parlé de Pac-Man, ça m'a rappelé ma jeunesse, quand mon papa m'emmenait au foyer, ça s'appelait le foyer en Allemagne, à Breisach. On achetait des cigarettes. Bah, je fumais pas encore à l'époque. J'avais 5 ans.
Fumais-tu, attention, rappel. Hein.
Attention, Peggy.
Oui, et fais tomber les dents aussi. Et il y avait, comme vous avez parlé de Pac-Man, j'ai dit, ah ben moi je jouais à Pac-Man sur un flipper. Donc j'ai fait mes petites recherches. Donc Pac-Man est un jeu d'arcade hybride unique, sorti en 82. Il combine des éléments d'un flipper et d'un jeu vidéo. Il n'y en a plus parce que c'est trop bruyant et pas assez rentable. Donc, 44 ans de gloutonnerie culte et un flipper vaut actuellement environ 2500 euros.
Faut avoir le budget, quoi. Faut avoir un bon salaire.
Ouais, c'est que ça.
Ben, merci pour les souvenirs.
Ouais.
Et maintenant, tu joues encore aux jeux vidéo?
Pas du tout. Ah. Je les comprends pas.
Okay. Ah.
Comme je comprends pas les blagues, comme, voilà.
Bravo, Peggy. Un peu d'applaudissements pour Peggy.
Merci.
Alban, toi, au niveau jeux vidéo, bon, t'es sur quoi? T'es
Je joue à plusieurs jeux vidéo, Minecraft, Fortnite, Civilization 7, j'aime bien les jeux. Ouais.
Combien d'heures par jour?
Pas tant que ça, 2-3 heures.
Ah, ça va.
Oh là là, on te croit. Hein.
On te
ça
croit.
S'entend dans la voix. Oui.
Et toi, Mathias?
Plutôt Call of Duty.
Ah, et combien d'heures?
Je sais pas, je compte pas.
Ok. Et toi, Tim, tu joues un petit peu?
Oui, moi je joue plus sur téléphone, comme on l'a dit avant, à Brawl Stars.
D'ailleurs, tu m'as fait découvrir Brawl Stars. Est-ce que j'ai installé depuis 2 semaines? Est-ce que je suis un peu ringard?
Non, ça
non,
va.
Au moins,
Peggy,
va.
Tu vois, t'es pas la seule à pas connaître.
Peggy n'est pas la seule.
Voilà.
Il n'est pas la seule ancêtre ici.
Oh.
Que répondre à ça? Même Sandrine, notre présidente, parlait jeux vidéo avec notre ami Mathias. Et moi, je ne comprenais rien.
Voilà. Après, chacun son domaine.
Ouais,
hein,
c'est ça.
Oui.
Voilà.
Alban, tu nous fais une petite... intro sur la musique.
On va écouter Grand Theft Auto de San Andreas.
Voilà. Ouais,
oui,
voilà.
Remixé par moi, donc Tim et Alban.
Et demain, on va parler de foot parce que demain soir, Tim, c'est une rencontre importante pour la France.
Oui, la France qui joue contre le Maroc. C'est en quoi? C'est en
quart de finale.
Quart de finale.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oh là là, ça va être chaud.
Oh, ouais.
Faut parler dans le micro si jamais Peggy. On t'apprend la radio.
Ça va être chaud.
Petit ouais. Conseil pour Peggy, on parle dans le micro quand on est à la radio.
Merci de m'apprendre.
Et on va vous laisser sur une musique de GTA San Andreas.
Et oui, et il va...
On se retrouve demain et puis...
Même heure.
Même heure, oui, et même lieu. Et le prochain groupe, ils vont nous parler de phobie. D'ailleurs, la phobie des jeux vidéo, ça n'existe pas. Mais, ouais, je sais pas, c'est pour essayer de faire une transition. C'est la ludophobie, c'est la peur des jeux en général.
Ouais, voilà. Je suis ludophobe.
Ah, bah voilà, on a appris une phobie de Peggy, mais on revient juste après sur toutes les phobies qui existent et les plus folles. Juste après, le remix de Alban et Tim. Passez une belle journée, on peut s'applaudir.
Vous êtes sur RDL et nous allons vous présenter les phobies les plus originales, les phobies les plus normales aux phobies les plus originales avec Cléo, Marcel, Johanna et Zoé.
Alors, aujourd'hui, on va vous parler des phobies les plus classiques aux plus étranges. Mais tout d'abord, c'est quoi une phobie, Zoé?
Une phobie, c'est une peur morbide, une angoisse éprouvée devant certains objets, actes, situations ou idées. Lorsqu'une personne ayant une phobie relative à quelque chose auquel elle fait face, elle peut avoir plusieurs types de réactions. La personne développe une anxiété sévère qui se manifeste par des symptômes physiques tels que des sueurs, une respiration anormale, une accélération du rythme cardiaque, des tremblements, des frissons, une douleur thoracique, une sécheresse de la bouche, des vertiges ou encore des maux de tête. Johanna, quelles sont les phobies les plus classiques que les personnes peuvent développer ?
Il y a d'abord l'arachnophobie, qui est la peur des araignées, mais aussi la claustrophobie, dont la peur des espaces clos, l'acrophobie, la peur des hauteurs, l'aérodromphobie, la peur de l'avion, l'agoraphobie, qui est la peur des espaces ouverts ou des foules, la phobie sociale, dont la peur de parler en public ou d'être observé, l'hémophobie, la peur du sang, et enfin l'acluophobie, qui est la peur de l'obscurité.
Cependant, ceci n'est qu'une petite partie des phobies sur Terre, n'est-ce pas, Johanna ?
Oui, parfaitement. Des études ont prouvé que dans le monde, il existe des centaines de phobies différentes, dont les phobies très originales, qui toucheraient 12,5% des adultes dans le monde. Bien sûr que certaines phobies sont plus présentes chez les enfants que chez les adultes, comme l'acluophobie, la peur de l'obscurité.
Merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus, Johanna.
Quelles sont les phobies les plus originales que tu connaisses, Léo ?
Alors, je connais la phobophobie. C'est la phobophobie, elle se définit comme la peur d'avoir peur. La personne anticipe ce qu'elle craint de ressentir, il n'y a pas de stimulus extérieur, ce sont les pensées qui activent sa peur. La phobophobie est soit accompagnée d'une phobie spécifique, comme la phobie des araignées, soit sans phobie associée. Après, je connais aussi la chlorophobie. La chlorophobie, c'est la peur excessive des clowns, qu'il s'agisse d'une personne déguisée, d'une image ou d'une figurine. Ensuite, il y a la phasmophobie, c'est la phobie des fantômes, elle possède plusieurs synonymes, la phasmophobie, la fantasmophobie et l'ectophobie. Il ne faut pas la confondre avec la spectrophobie, qui est la peur des miroirs. Ensuite, pour finir, j'ai la tripophobie, celle se définit comme la peur des trous, c'est la crainte excessive d'objets ou d'images comportant ces formes géométriques à répétition, comme sur les nids d'abeilles, la mousse lavante, le gruyère. Et toi, Marcel, quelles sont les phobies les plus originales que tu connais ?
Je connais la nyctophobie, qu'on appelle aussi kinophobie ou acluophobie. Elle a crainte irrationnelle du noir. La peur du noir est naturelle. Elle apparaît vers 18 mois. L'enfant marche et découvre son environnement. Mais l'obscurité l'en empêche, provoquant des sentiments d'abandon, de panique. Cette peur de l'obscurité disparaît autour de 6 ans. La carpophobie est une crainte des fruits, phobie de bananes, peur de fraises ou malaise devant les pommes. Ce trouble phobique existe même s'il reste rare. À l'origine de la carpophobie, il s'agit probablement d'un traumatisme en lien avec des fruits. Par exemple, dans la petite enfance, au moment de la diversification alimentaire. La peur des nains de jardin en brouette existe et porte le nom de nanopabulophobie. Phobie insolite, elle provoque effroi et anxiété chez les personnes qui en souffrent. À l'origine de cette phobie, des nains de jardin peut être associé à un traumatisme remontant à l'enfance. La scopophobie est la peur exagérée d'être observé par les autres. Il s'agit d'une phobie sociale spécifique car elle n'a lieu qu'en public, les personnes ressentent une crainte extrême d'attirer l'attention.
C'est donc la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous souhaite une bonne journée sur RDL avec à suivre Iron de Haven et Caitlin Aragon.
my brain.